Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Une demande de référendum, contestation des délais et de l'étude d'impact. Les députés de gauche et de droite dénoncent la réforme des retraites et des conditions qu'ils jugent inadmissibles pour examiner ce texte souhaité par le gouvernement.
Donald Trump dévoile aujourd'hui son plan de paix pour le Proche-Orient, salué comme historique par Israël, mais déjà dénoncé par les Palestiniens.
Un plan qui n'a donc que peu de chances d'aboutir tant il est rejeté d'avance. Explication dans ce journal. À suivre également un zoom sur l'île de Madagascar, mais aussi la Zambie, le Burundi, le Kenya ou encore le Burkina Faso, une dizaine de pays marqués par des conflits locaux et des crises politiques directement provoquées par le conflit climatique. Autant de situations rarement évoquées dans les médias. Nous ferons un point sur le baromètre de l'ONG CARE que Nathanaël Charbonnier a pu consulter en avant-première.
Et puis la question du jour dans une dizaine de minutes, Catherine, municipale. Les gares sont-elles devenues un enjeu politique? On posera la question à Renaud Epstein et maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye.
Alors qu'une huitième journée de mobilisation interprofessionnelle se profile demain contre la réforme des retraites, la bataille parlementaire commence à peine. L'opposition de droite et de gauche veut faire dérailler les projets de l'exécutif. À partir d'aujourd'hui, c'est en effet une commission spéciale qui examinera les projets de loi organique et ordinaire visant à créer un système universel de retraite par points. Une commission constituée à la demande de la majorité, composée de 70 députés, en tenant compte du rapport de force à l'Assemblée. Les élus socialistes, communiste insoumis, dénonce des délais trop courts pour examiner ce texte majeur. De son côté, le chef de file du groupe Les Républicains a qualifié hier soir d'incomplète et insincère l'étude d'impact sur la réforme des retraites. Damien Abad a donc saisi le président de l'Assemblée nationale. Son groupe LR est même prêt à saisir le Conseil constitutionnel pour faire reconnaître un débat parlementaire biaisé. Bref, le débat s'annonce mouvementé, Anne Fauquemberg.
Dès ce matin, dans la droite ligne d'une lettre envoyée par 75 députés le week-end dernier à Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, les représentants de plusieurs groupes d'opposition devraient demander un délai pour démarrer les travaux en commission. Tout ça va se passer à 10h en conférence des présidents à l'hôtel de Lassé et le chef de file des communistes, André Chassaigne, sera en première ligne.
C'est pas envisageable que l'on discute un texte qui est incomplet, dont les insuffisances ont été soulignées par le Conseil d'État. C'est une question de respect de l'Assemblée nationale. La discussion générale va commencer en commission donc à 21h et on ne disposera que de 2 jours pour déposer des amendements. C'est quelque chose qui n'est pas raisonnable.
Il y a peu de chances que Richard Ferrand donne raison. Alors à 17h cet après-midi, après les questions au gouvernement, les groupes de gauche devraient se retrouver pour articuler la riposte. Motion censure, motion référendaire sont en réflexion, mais cette commission spéciale devrait surtout devenir le lieu d'une véritable bataille d'amendements dont les Républicains ne seront pas non plus absents. La République En Marche ne compte pas se laisser faire. En plus des 2 rapporteurs nommés par le groupe majoritaire, 5 représentants thématiques ont été désignés. Et pour éviter les couacs avec le gouvernement, c'est le président du groupe Gilles Legendre et sa vice-présidente Marie Lebec qui assureront en personne la coordination avec l'exécutif.
Et pour le secrétaire d'État en charge des retraites, Laurent Pietraszewski, auditionné ce soir par la commission spéciale retraite, les députés ont déjà vécu des calendriers contraints similaires. Ils auront le temps de travailler sur le texte. Nous respectons le calendrier sur lequel nous nous sommes engagés, a-t-il déclaré hier soir sur LCP. Alors que de sondage en sondage, près d'un tiers des Français annoncent vouloir sanctionner l'exécutif lors des élections municipales de mars prochain, Emmanuel Macron et le gouvernement récoltant de plus en plus l'adhésion des sympathisants de droite comparés aux sympathisants socialistes. Une question, le Premier ministre risquera-t-il de se présenter dans sa ville du Havre? Matignon laisse planer le doute jusqu'à vendredi, Stéphane Robert.
Édouard Philippe sera-t-il candidat? Pas candidat? On ne dit rien jusqu'à vendredi, répondent ses conseillers à Matignon. Sa décision, il l'annoncera au Havrais d'abord. En attendant, beaucoup de choses plaident pour que le Premier ministre se présente à nouveau dans la ville où il a succédé à Antoine Ruffnac en 2010. Déjà parce qu'il répète depuis des mois que s'il doit être candidat, ce sera au Havre et nulle part ailleurs. Ensuite parce qu'un homme politique qui a des responsabilités nationales se doit de conserver un ancrage local. À Matignon, il est sur un siège éjectable. Il dépend des circonstances politiques et du bon vouloir du président de la République. Dès lors, si ça se passe mal, une base de repli est indispensable. Ensuite, il a politiquement beaucoup à gagner. s'il l'emporte en tout cas. Après avoir tenu bon sur la réforme des retraites, une victoire aux municipales l'installerait définitivement comme l'un des piliers de la Macronie. C'est simple, explique un parlementaire de La République En Marche. S'il gagne au Havre, il devient intouchable. Autre argument, un sondage en octobre dernier le donnait gagnant au premier tour avec un peu plus de 50%, comme en 2014. Seulement, il y a un hic. Depuis, la réforme des retraites est passée par là. Et la contestation au Havre, historiquement un bastion communiste, s'est révélée particulièrement virulente. Et si le Havre est une ville capable d'élire un maire de droite, aux élections nationales, elle vote systématiquement à gauche. Or, une candidature du Premier ministre nationaliserait le scrutin et pourrait donc constituer un risque. Dès lors, la question est, Édouard Philippe est-il prêt à prendre ce risque ?
Lui a levé le vrai faux suspense. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a annoncé hier sa candidature en tête de liste au municipal à Tourcoing, dans le Nord, ce qui pourrait signifier à terme son départ du gouvernement. Ils prétendent tous deux au fauteuil de l'hôtel de ville à Paris. Les rivaux macronistes Cédric Villani et Benjamin Griveaux ont mesuré leurs troupes à distance hier, au lendemain de la tentative ratée de conciliation menée par le chef de l'État. Benjamin Griveaux a tenté de rassembler au théâtre Bobino sa famille politique devant un millier de soutien et une quinzaine de membres du gouvernement, dont Christophe Castaner et Marlène Schiappa, accueillis sous les sifflets par des dizaines d'opposants à la réforme des retraites. Au même moment, rive droite, dans une modeste salle du 11e arrondissement de Paris, Cédric Villani a lui dessiné son nouveau Paris devant quelques 200 partisans. Ils avaient planté leurs tentes ou monté des baraquements de fortune au bord du périphérique parisien. Des centaines de migrants sont évacués depuis 6 heures ce matin de leur campement de fortune à la porte d'Aubervilliers. Des migrants acheminés en bus vers des gymnases et des centres d'accueil en Île-de-France. Après une cinquantaine de médecins et de chefs de service du CHU de Rennes, ce sont 27 chefs de service qui jettent l'éponge à l'hôpital Robert Debré à Paris. Tous réclament davantage de moyens humains et financiers pour l'hôpital public. Arrêtons-nous à présent sur les chiffres du chômage en nette baisse selon Pôle emploi, avec 120 700 demandeurs d'emploi sans activité en moins l'an dernier. Si le ministre des Finances Bruno Le Maire estime que l'on pourrait atteindre le plein emploi en 2025, avec tout de même 3 600 000 chômeurs n'ayant exercé aucune activité, les économistes restent prudents. Comme Philippe Askenazi, professeur à l'École normale supérieure, il s'interroge lui sur ces nouveaux précaires pour qui il faudrait peut-être créer de nouvelles catégories à Pôle emploi.
Au sein du salariat, il y a d'un côté toujours une majorité de CDI et des CDD qui sont de plus en plus à haute fréquence. Et effectivement, on a deux nouveaux types de catégories qui sont les micro-entrepreneurs dont c'est l'activité unique et principale, dont le nombre a nettement augmenté dans les deux dernières années et qui, eux, peuvent être aujourd'hui dans une activité assez soutenue, mais avec un risque, comme toute entreprise, de faillite, de difficulté. Les entrepreneurs pauvres en difficulté dans un horizon de 3 à 5 ans. Et puis, il y a une seconde catégorie nouvelle, et c'est celle-là où, pour le statisticien, il y a un gros travail à effectuer. Ce sont ceux qui sont en cette situation de cumul. Et je vais essayer de jouer sur toutes les opportunités, prendre des CDD, en cumuler parfois deux à mi-temps, être auto-entrepreneur simultanément. Tout ça dans une situation où, en plus, il y a une réforme de l'assurance chômage qui va, pour ces personnes, les mettre en des difficultés financières, et donc ça risque de les pousser à encore plus, en quelque sorte, accumuler le plus d'opportunités possibles d'accepter n'importe quel type de contrat ou de mission. C'est tout cela qu'il faudrait suivre, et très probablement il y a un travail à faire d'amélioration de l'outil statistique. Ça permettrait d'éclairer non seulement des chiffres à proprement parler, mais aussi de types de politiques sociales, économiques, voire industrielles qu'il faut mettre en œuvre dans un pays comme la France.
L'économiste Philippe Askenazi, professeur à l'École normale supérieure, il répondait à Marie Viennot.
7h09 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu sur France Culture. Les Palestiniens rejettent d'ores et déjà le plan de paix de Donald Trump.
Un plan qui doit être annoncé ce midi à Washington, 18h, heure de Paris. Les grandes lignes ont déjà été dévoilées hier au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Conférence de presse commune des deux hommes prévue ce soir à la Maison-Blanche. Mais les Palestiniens craignent déjà que ce plan de paix ne sonne la fin d'une solution à deux États. Car depuis son arrivée à la présidence des États-Unis, Donald Trump donne surtout des gages aux Israéliens, aucun aux Palestiniens, Grégory Phillips.
Sur le dossier israélo-palestinien, au moins Donald Trump est constant. Il avait promis le déménagement de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, il l'a fait. Même chose pour la reconnaissance de l'annexion du plateau du Golan par Israël, en remerciement son ami Bibi, a même donné le nom de Trump à une implantation. Enfin, ces derniers mois, l'administration américaine a gelé les fonds destinés à l'UNRWA, l'organisme des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ou encore annoncé que désormais, à ses yeux, les colonies israéliennes en Cisjordanie ne sont plus illégales, contrairement à ce que dit le droit international. Donald Trump a l'habitude de dire qu'il est le plus pro-Israël des présidents américains. Évidemment, ceci a aussi des fins politiques. Plus que l'électorat juif, traditionnellement démocrate, Trump veut garder la confiance des chrétiens évangéliques, pour lesquels le soutien à Israël est une priorité absolue. Ils sont entre 60 et 80 millions aux États-Unis, et à la dernière présidentielle de 2016, ils avaient massivement voté pour Donald Trump.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Et les États-Unis devraient continuer leur engagement au Sahel. C'est en tout cas ce qu'espère la ministre française des Armées, Florence Parly, en déplacement sur le sol américain. 7000 soldats américains sont déployés en Afrique. Enjeu décrypté dans le journal de 7h30. Arrêtons-nous à présent sur l'île de Madagascar, la Zambie, le Burundi, le Kenya ou encore le Burkina Faso. Une dizaine de pays, je le disais en titre, qui sont marqués par des conflits locaux et par des crises politiques marquées également par le changement climatique. Des situations rarement évoquées dans les médias, comme le surligne le baromètre de l'ONG CARE pour la quatrième année consécutive. Baromètre que s'est procuré en avant-première Nathanaël Charbonnier.
À Madagascar, c'est le phénomène El Niño qui rend la vie impossible, notamment dans le sud. Plus de sécheresse, moins d'eau, des cyclones plus violents et des conséquences dramatiques dans un pays où la population vit essentiellement de l'agriculture. On compte plus de 2 millions de personnes touchées. Au cœur du continent africain, en Zambie, là encore, le climat est source de crise. Dans le sud, le taux de pluie enregistré est le plus bas depuis l'année 1981. Les céréales ne poussent plus, si bien que les habitants sont obligés de manger des racines. 40% des enfants de moins de 5 ans ont un retard de croissance. On pourrait croire le Kenya épargné avec son tourisme et ses images de safari, mais là encore c'est une erreur, la situation se dégrade. L'augmentation de la température de la mer entraîne des sécheresses de plus en plus fortes. En 2019, on parle de 20% de précipitations en moins dans le pays, notamment dans sa partie occidentale, si bien que plus d'un million de personnes n'ont pas accès quotidiennement à la nourriture et que 500 000 enfants souffrent de malnutrition.
Le bilan de l'épidémie de coronavirus s'est alourdi hier à 106 morts en Chine, où le gouvernement prolonge les vacances du Nouvel An pour tenter d'enrayer la propagation de cette épidémie. À suivre dans le journal de 7h30, Total attaqué en justice pour action climatique, c'est le premier contentieux contre une entreprise française. Le temps de ce mardi 28 janvier venteux et plutôt maussade, avec des températures comprises ce matin entre 2 et 5 degrés sur la moitié nord du pays, 6 à 11 au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.